Chapitre 6. Le Nazaréen. L'institution du Nazaréat. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Parle aux fils d'Israël et dis-leur, si un homme ou une femme se consacre en faisant vœu de Nazaréat pour se séparer afin d'être à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boisson forte, il ne boira ni vinaigre de vin ni vinaigre de boisson forte, et il ne boira d'aucune liqueur de raisin, et ne mangera point de raisin frais ou sec. Pendant tous les jours de son Nazaréat, il ne mangera rien de ce qui est fait de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau. Pendant tous les jours du vœu de son Nazaréat, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est séparé pour être à l'Éternel, il sera saint. Il laissera croître les boucles des cheveux de sa tête. Pendant tous les jours de sa consécration à l'Éternel, il ne s'approchera d'aucune personne morte. Il ne se rendra pas impur pour son père, ni pour sa mère, ni pour son frère, ni pour sa sœur quand ils mourront, car le Nazaréat de son Dieu est sur sa tête. Pendant tous les jours de son Nazaréat, il est consacré à l'Éternel. » Versets 1 à 8. L'ordonnance du Nazaréat est pleine d'intérêt et d'instructions pratiques. En elle, nous voyons le cas de celui qui se met à part très strictement des choses qui, n'étant pas absolument coupables en elles-mêmes, sont néanmoins propres à nuire à une entière consécration du cœur à Dieu. En premier lieu, le Nazaréen ne devait pas boire de vin. Le fruit de la vigne, sous quelque forme que ce soit, lui était interdit. Or, le vin est le symbole tout naturel de la joie terrestre, l'expression de cette jouissance sociale à laquelle le cœur humain est si pleinement enclin à se livrer. Le Nazaréen devait s'en garder soigneusement. Pour lui, c'était une ordonnance littérale. Pendant les jours de sa séparation, il ne devait pas exciter la chair par des boissons fortes. Tel était le type écrit pour notre instruction. L'institution du Nazaréat trouve sa place naturelle dans le livre des Nombres. Elle est en harmonie avec le caractère de ce livre qui contient, ainsi que nous l'avons déjà fait observer, tout ce qui concerne spécialement la vie dans le désert. Recherchons donc quelle est la leçon qui nous est enseignée dans la privation de tout ce qui appartenait à la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Le parfait Nazaréen. Il n'y a eu qu'un seul Nazaréen véritable et parfait dans ce monde. Celui qui, du commencement à la fin, a observé la plus complète séparation de toute joie purement terrestre. C'est le Seigneur Jésus. Depuis le moment où il est entré dans son œuvre publique, il s'est tenu lui-même en dehors de tout ce qui était de ce monde. Son cœur s'occupait de Dieu et de son œuvre avec un dévouement que rien ne pouvait ébranler. Il n'a jamais laissé les prétentions de la terre ou des relations naturelles se placer entre son cœur et l'œuvre qu'il était venu accomplir. « Ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon Père ?» Luc 2, verset 49. Et encore, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme ?» Jean 2, verset 4. Il avait une chose à faire, et pour cela il se séparait lui-même parfaitement de tout le reste. Son œil était simple, et son cœur était nullement partagé. C'est ce qu'on voit d'un bout à l'autre de sa carrière. Il peut dire à ses disciples, « J'ai de la viande à manger que vous ne connaissez pas. » Et lorsque ceux-ci, ne comprenant pas la signification profonde de ces paroles, disent « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Il répond « Ma viande est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jean 4, versets 32 à 34. Aussi, au terme de sa carrière ici-bas, nous l'entendons prononcer des paroles comme celle-ci en prenant dans sa main la coupe « Prenez ceci et le distribuez entre vous. » car je vous dis que je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Luc 22, versets 17 et 18. Ainsi, nous voyons comment le parfait Nazaréen se comportait en tout. Il ne pouvait avoir aucune joie terrestre, aucune joie dans la nation d'Israël. Le temps n'était pas venu pour cela, et par conséquent, il se détachait de tout ce que l'affection purement humaine pouvait trouver avec les siens, afin de se vouer au seul grand objet qui occupait toujours son esprit. Le temps viendra où, comme Messie, il se réjouira dans son peuple et dans la terre, mais jusqu'à ce que vienne ce moment béni, Il est à part comme le vrai Nazaréen et son peuple lui est associé. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et moi je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jean 17, versets 16 à 19. Séparation des joies de ce monde. Lecteur chrétien, étudions sérieusement ce premier grand trait du caractère du Nazaréen. Il est important que nous nous examinions honnêtement à sa lumière. Jusqu'à quel point comprenons-nous réellement le sens et la puissance de cette entière séparation de toute excitation charnelle et de toute joie mondaine? On dira peut-être, quel mal y a-t-il à s'accorder une distraction ou un amusement? Nous ne sommes pas appelés à être des moines. Tandis que nous sommes dans le monde, n'est-il pas à propos que nous en jouissions? Or, la question pour nous est celle-ci. Aspirons-nous à être nazaréens? Soupirons-nous après une séparation complète et un dévouement de nous-mêmes à Dieu, corps, âme et esprit? S'il en est ainsi, il faut que nous nous tenions en dehors de toutes les choses dans lesquelles l'homme naturel trouve ses jouissances. Est-ce le désir de notre cœur d'être, comme Christ notre Seigneur, séparé pour Dieu de toutes les choses qui, bien que n'étant pas franchement mauvaises en elles-mêmes, tendent néanmoins à empêcher une entière consécration du cœur à Dieu? Le lecteur chrétien ne sent-il pas qu'il y a d'innombrables choses qui exercent une influence distrayante et affaiblissante sur son esprit et qui, à la mesure de la morale ordinaire, peuvent passer pour innocentes? Nous devons nous souvenir que les Nazaréens de Dieu ne mesurent pas les choses au moyen d'une telle règle. Leur morale n'est pas une morale ordinaire. Ils regardent les choses d'un point de vue céleste et divin, et par conséquent, ils ne peuvent considérer comme innocents ce qui tend à porter atteinte à leur consécration à Dieu ou à leur communion avec lui. Que Dieu nous accorde la grâce de peser ces choses et de nous tenir en garde contre toute influence corruptrice. Chacun doit être instruit de ce qui, dans son cas, se trouverait être pour lui comme le vin et les boissons fortes. Ce sont des choses qui peuvent paraître des bagatelles, mais nous pouvons être assurés que rien de ce qui rompt la communion de notre âme avec Dieu et nous prive de l'intimité avec lui ne peut jamais être une bagatelle. Renoncement à notre dignité personnelle. Mais il y avait autre chose qui caractérisait le Nazaréen. Il ne devait pas raser sa tête. Pendant tous les jours du vœu de son Nazaréat, le rasoir ne passera pas sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est séparé pour être à l'Éternel. Il sera saint. Il laissera croître les boucles des cheveux de sa tête. Verset 5. Dans 1 Corinthiens 11, verset 14, nous apprenons qu'une longue chevelure est un manque de dignité pour l'homme. La nature même ne vous enseigne-t-elle pas que si un homme a une longue chevelure, c'est un déshonneur pour lui? Si nous désirons réellement vivre d'une vie de séparation pour Dieu, nous devons être prêts à renoncer à notre dignité naturelle. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait parfaitement. Il s'est anéanti lui-même. Il a renoncé à ses droits en toute chose. Il a pu dire « Je suis un ver et non point un homme ». Il s'est dépouillé entièrement lui-même et a pris la place la plus humble. Son Nazaréat a été parfait en ceci comme en toute autre chose. Or, c'est justement là que nous aimons si peu faire. Nous défendons naturellement notre dignité et nous cherchons à maintenir nos droits, ce qui est considéré comme une action virile. Mais l'homme parfait ne fit jamais cela. Si nous aspirons à être nazaréens, nous ne le ferons pas non plus. Remarquons encore qu'en règle générale, il convenait à un homme de se couper les cheveux. Mais pour un Nazaréen, ce n'était pas bien. Pour un homme ordinaire, c'était bien de se raser et de boire du vin. Mais le Nazaréen n'était pas un homme ordinaire. Il était mis à part de tout ce qui était ordinaire pour marcher dans un sentier particulier, un sentier de consécration à Dieu. La question est, désirons-nous nous conduire comme les hommes honnêtes de ce monde ou comme de vrais disciples de Christ? Selon le langage de 1 Corinthiens 3, verset 3, les expressions « marcher à la manière des hommes » et « être charnel, sont synonymes. Voulons-nous être dirigés par l'esprit et les principes d'un monde sans Dieu et sans Christ? Ne perdons pas notre temps à discuter de points qui ne seraient jamais soulevés si nos âmes étaient dans une bonne atmosphère morale, dans une bonne attitude spirituelle. Sans doute, il est parfaitement légitime, parfaitement naturel, pour les hommes de ce monde, de jouir de tout ce qu'il a à leur offrir et de maintenir de tout leur pouvoir leurs droits et leur dignité. Mais il n'en est pas ainsi pour ceux qui désirent marcher dans une entière consécration de cœur à Dieu. Dieu et le monde, la chair et l'esprit, ne se concilient pas et ne peuvent pas se concilier. Le temps viendra où il en sera autrement. Mais maintenant, tous ceux qui veulent vivre pour Dieu et marcher par l'esprit doivent vivre séparés du monde et mortifier la chair. Que Dieu, dans sa grande miséricorde, nous rende capables de le faire. Pas de contact avec un corps mort. Il nous reste à mentionner un autre fait particulier aux Nazaréens. Ils ne devaient pas toucher un corps mort. Pendant tous les jours de sa consécration à l'Éternel, il ne s'approchera d'aucune personne morte. Il ne se rendra pas impur pour son père, ni pour sa mère, ni pour son frère, ni pour sa sœur quand ils mourront, car le Nazaréat de son Dieu est sur sa tête. Versets 6 et 7. Quand une fois la consécration à Dieu reposait sur la tête de quelqu'un, cela devenait la règle et la pierre de touche de toute sa conduite. Cela le plaçait sur un terrain entièrement nouveau et lui faisait un devoir d'envisager toute chose à un point de vue nouveau. L'Israélite n'avait plus à demander ce qui lui convenait comme homme, mais ce qui lui convenait comme Nazaréen. Par conséquent, si son plus cher ami tombait mort à côté de lui, il ne devait pas le toucher. Il était appelé à se tenir lui-même à part de l'influence impure de la mort, parce que le Nazaréat de Dieu était sur sa tête. La communion avec Dieu. Or, dans l'application que nous pouvons faire pour nous de ce sujet du Nazaréat, il est nécessaire de bien comprendre qu'il n'est pas question du salut de l'âme, de la vie éternelle ou de la parfaite sécurité du croyant en Christ. Il y a dans le christianisme deux grands anneaux qui, bien que très intimement unis, sont tout à fait distincts. Il y a l'anneau de la vie éternelle et l'anneau de la communion personnelle. Le premier ne peut jamais être rompu par quoi que ce soit, le second peut l'être en un instant par une cause très petite. C'est au second de ces anneaux que se rapporte le Nazaréat. Nous pouvons voir, dans la personne du Nazaréen, un type de celui qui entre dans une position particulière de dévouement ou de consécration à Christ. La puissance pour persister dans ce sentier se trouve dans une communion secrète avec Dieu, de sorte que si la communion est interrompue, la puissance cesse. Ceci rend le sujet particulièrement sérieux. Il y a un très grand danger à vouloir suivre un chemin lorsque ce qui constitue la source de la puissance pour cela fait défaut. Il n'y a rien de plus abominable que de vouloir conserver l'apparence du Nazaréat quand la réalité intérieure a disparu. Il vaut infiniment mieux confesser notre chute et prendre notre vraie place que de garder une fausse apparence. Dieu veut de la réalité, et si nous voulons tromper à cet égard, nous pouvons être convaincus que, tôt ou tard, notre faiblesse et notre folie seront manifestées. L'exemple de Samson. Considérons le cas solennel de Samson qui nous est décrit dans le chapitre 16 des Juges. Dans une heure funeste, il a trahi son secret et perdu sa force, et cela sans le savoir. Mais l'ennemi l'a vite su. Il a été rendu manifeste pour tous que le Nazaréen avait perdu son Nazaréat. Et il arriva, comme elle le tourmentait par ses paroles tous les jours et le pressait, que son âme en fut ennuyée jusqu'à la mort. Et il lui déclara tout ce qui était dans son cœur et lui dit « Le rasoir n'a jamais passé sur ma tête, car je suis Nazaréen de Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force s'en irait de moi, et je deviendrais faible, et je serais comme tous les hommes. » Versets 16 et 17. Hélas, c'était la révélation du secret de sa force extraordinaire. Jusque-là, son sentier avait été un sentier de force et de victoire, simplement parce qu'il avait été celui du Nazaréat. Mais le cœur de Samson fut vaincu par les séductions de Delila, et ce que 1000 Philistins n'avaient pu faire, l'influence séduisante d'une femme le fit. Samson tomba de la haute élévation du Nazaréat au niveau d'un homme ordinaire. Et Délila vit qu'il lui avait déclaré tout ce qui était dans son cœur, et elle envoya et appela les princes des Philistins, disant « Montez cette fois, car il m'a déclaré tout ce qui est dans son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Et elle l'endormit sur ses genoux, et appela un homme et rasa les 7 tresses de sa tête. Et elle commença de l'humilier, et sa force se retira de lui. Et elle dit « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et se dit « Je m'en irai comme les autres fois et je me dégagerai. » Or, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux et le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain et ils tournaient la meule dans la maison des prisonniers. Juges 7, versets 18 à 21. Quel tableau! Quel avertissement pour nous! La force de Samson avait disparu. L'Éternel s'était retiré de lui. Le Nazaréen puissant était devenu un prisonnier aveugle. Au lieu de triompher des Philistins, il dut tourner la meule dans leur prison. Voilà ce qui arrive lorsqu'on cède aux exigences de la chair ou du monde. Samson ne recouvra jamais sa liberté. Il lui fut permis, par la volonté de Dieu, de remporter une victoire de plus sur les Philistins. Mais elle lui coûta la vie. Les Nazaréens de Dieu doivent se conserver purs, sinon ils perdent leur puissance. Il faut qu'ils soient toujours en garde contre les diverses choses qui tendent à entraîner le cœur, à distraire l'esprit et à abaisser le degré de spiritualité. Ressources divines. Et si quelqu'un vient à mourir subitement, auprès de lui, d'une manière imprévue, et qu'il ait rendu impur la tête de son Nazaréat, il rasera sa tête au jour de sa purification. Il la rasera le 7e jour. Et le 8e jour, il apportera au sacrificateur 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons à l'entrée de la tente d'assignation. Et le sacrificateur offrira l'un en sacrifice pour le péché et l'autre en holocauste et fera propitiation pour lui de ce qu'il a péché à l'occasion du mort. Et il sanctifiera sa tête ce jour-là. Et il consacrera à l'Éternel les jours de son Nazaréat. Et il amènera un agneau âgé d'un an en sacrifice pour le délit, et les premiers jours seront comptés pour rien, car il a rendu impur son Nazaréat. Versets 9 à 12. Nous trouvons ici l'expiation, sous ces 2 grands aspects, comme étant le seul principe d'après lequel le Nazaréen pouvait retrouver ce qu'il avait perdu. Il avait contracté une souillure, et cette souillure ne pouvait être enlevée que par le sang d'un sacrifice. Il y avait l'Holocauste, type de la mort de Christ relativement à Dieu. Il y avait le sacrifice pour le péché, type de la même mort relativement à nous. Il y avait encore le sacrifice pour le délit, type de la mort de Christ, dans son application non seulement à la racine ou au principe du mal en la chair, mais aussi au péché effectivement commis. En un mot, il fallait la plénitude de l'efficace de la mort du Christ pour enlever la souillure contractée. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Le péché est une chose odieuse aux yeux de Dieu. Une seule pensée, un seul regard, une seule parole coupable suffisent pour jeter sur notre âme un nuage qui cache à notre vue la clarté de la face de Dieu. Gardons-nous donc de traiter légèrement le péché. Rappelons-nous que pour effacer nos péchés, le Seigneur Jésus-Christ a dû passer par toutes les inexprimables horreurs du calvaire. Son cri, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» est la seule chose qui puisse nous donner une juste idée de ce qu'est le péché. Et personne ne peut pénétrer les profondeurs immenses de ce cri. Mais bien que nous ne puissions jamais sonder les mystérieux abîmes des souffrances du Christ, nous devons au moins chercher à méditer plus habituellement sur ce sujet. Nous obtiendrons par là une compréhension plus profonde du caractère odieux du péché aux yeux de Dieu. Si, en effet, le péché était tellement affreux et tellement abominable pour un Dieu saint qu'il était contraint de détourner sa face de son bien-aimé lorsqu'il portait le péché en son corps sur le bois, que doit donc être le péché? Ô lecteur, considérons sérieusement ces choses. Que Dieu nous garde de légèreté. Soyons en garde contre un seul coup d'œil dans une mauvaise direction. Si facilement le cœur suit l'œil, les pieds suivent le cœur, et ainsi nous nous éloignons du Seigneur, nous perdons le sentiment de sa présence et de son amour, et nous devenons misérables. ou, si nous ne sommes pas misérables, nous sommes, ce qui est bien plus grave, froids, insensibles, endurcis par la séduction du péché. Que Dieu veuille nous garder de chute, qu'il nous fasse la grâce de veiller avec plus de zèle à tout ce qui pourrait porter atteinte à notre nazaréat. C'est une chose sérieuse de sortir de la communion, et une chose des plus dangereuses d'essayer de continuer d'agir dans le service du Seigneur en gardant une mauvaise conscience. Éloignement et retour. Quand le Nazaréen avait été souillé, par une cause quelconque, ne fût-ce que par l'attouchement d'un mort, il devait tout recommencer. Ce n'était pas seulement les jours de sa souillure qui étaient perdus ou qui ne comptaient pour rien, mais tous les jours de son nazaréat précédent. Cela nous enseigne que lorsque nous nous écartons de l'étroit sentier de la communion et que nous nous éloignons du Seigneur, nous devons retourner au point même d'où nous sommes partis et commencer tout à nouveau. Nous en avons plusieurs exemples dans l'Écriture. Prenez le cas d'Abraham lors de sa descente en Égypte, comme il nous est raconté au chapitre 12 de la Genèse. Évidemment, il s'était détourné de son sentier. Et quelle en fut la conséquence? Les jours passés en Égypte furent perdus et il dut retourner au point d'où il s'était éloigné et recommencer sa marche. Et il s'en alla en ses traites, du Midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il y avait fait auparavant, et Abraham invoqua là le nom de l'Éternel. Genèse 13, versets 3 et 4. C'est ce qui explique nos progrès misérablement lents. Nous tombons, nous nous éloignons du Seigneur, et nous nous laissons envelopper de ténèbres spirituelles, alors sa voix d'amour, puissante et fortifiante, parvient jusqu'à nous et nous ramène au point d'où nous nous étions éloignés. Nos âmes sont restaurées, mais nous avons perdu notre temps, et peut-être pour ne jamais le regagner. Cela est très sérieux et devrait nous faire marcher avec circonspection. Il est vrai que nos égarements et nos chutes nous éclairent sur l'état de nos propres cœurs, nous apprennent à nous défier de nous-mêmes et amènent le déploiement de la grâce immuable de notre Dieu. Tout cela est parfaitement vrai. Néanmoins, il y a un moyen tout autre, bien meilleur que les égarements et les chutes, de nous connaître nous-mêmes et de connaître Dieu. Notre moi, dans toute sa laideur morale, doit être jugé dans la pure lumière de la présence de Dieu, là où nos âmes croissent aussi dans la connaissance de Dieu. Or Dieu se révèle lui-même par le Saint-Esprit, dans les précieuses pages de l'Écriture sainte. C'est assurément le meilleur moyen de connaître et nous-mêmes et Dieu. Celui qui vit habituellement dans le sanctuaire de Dieu, qui marche dans une communion continuelle avec Dieu, aura un sentiment vrai de ce qu'est la chair et le monde, sans avoir besoin de l'apprendre par de cruelles expériences. Et de plus, il aura un sentiment plus profond et plus juste de ce qu'est Christ en lui-même et de ce qu'il est pour tous ceux qui mettent leur espérance en lui. C'est une pauvre chose que d'apprendre à se connaître soi-même par des expériences. Nous pouvons être sûrs que le vrai moyen de l'apprendre, c'est d'être en communion avec le Seigneur, et quand nous l'apprendrons ainsi, nous ne serons pas continuellement préoccupés de la pensée de notre misérable état, mais nous serons plutôt occupés de ce qui est en dehors et au-dessus de nous-mêmes, c'est-à-dire de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus notre Seigneur. Fin du temps de la consécration du Nazaréen. Et cite ici la loi du Nazaréen au jour où les jours de son nazaréat seront accomplis, on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation, et il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau mâle âgé d'un an, sans défaut, pour holocauste, et un agneau femelle âgé d'un an, sans défaut, en sacrifice pour le péché, et un bélier sans défaut, pour sacrifice de prospérité, et une corbeille de pain sans levain, des gâteaux de fleurs de farine pétris à l'huile, et des galettes sans levain ointes d'huile, et leur offrande de gâteaux et leur libation. Et le sacrificateur les présentera devant l'Éternel, et il offrira son sacrifice pour le péché et son holocauste. Et il offrira le bélier, en sacrifice de prospérité à l'Éternel, avec la corbeille des pains sans levain. Et le sacrificateur offrira son offrande de gâteaux et sa libation. Et le Nazaréen rasera à l'entrée de la tente d'assignation la tête de son Nazaréat, et il prendra les cheveux de la tête de son Nazaréat et les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice de prospérité. Et le sacrificateur prendra l'épaule cuite du bélier et un gâteau sans levain de la corbeille, et une galette sans levain, et il les mettra sur les paumes des mains du Nazaréen, après qu'il aura fait raser les cheveux de son Nazaréat. Et le sacrificateur les tournoiera en offrande tournoyée devant l'Éternel. C'est une chose sainte qui appartient au sacrificateur, avec la poitrine tournoyée et avec l'épaule élevée. Et après cela, le Nazaréen boira du vin. Telle est la loi du Nazaréen qui se sera voué, telle son offrande à l'Éternel pour son Nazaréat, outre ce que sa main aura pu atteindre. Selon son vœu qu'il aura fait, ainsi il fera, suivant la loi de son Nazaréat. Versets 13 à 21. Sous forme typique, cette merveilleuse loi nous conduit à quelque chose de futur, quand le résultat complet de l'œuvre parfaite de Christ apparaîtra, et lorsqu'à la fin de son Nazaréat, le Seigneur goûtera comme Messie d'Israël une véritable joie dans son peuple bien-aimé et dans cette terre. Alors, pour le Nazaréen, le temps sera venu de boire du vin. Actuellement, il est séparé de la nation séparée de ce monde, dans la puissance du vrai Nazaréat, comme il l'a dit lui-même à ses disciples en cette nuit mémorable. « Désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'à ce jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Matthieu 26, verset 29. Mais il y a un brillant jour à venir où l'Éternel, le Messie, se réjouira en Jérusalem et dans son peuple. Les prophéties d'Ésaïe à Malachie sont pleines d'allusions à ce jour heureux et éclatant. Nous remplirions un volume à citer les passages qui s'y rapportent. Si le lecteur veut lire les derniers chapitres d'Ésaïe, il y trouvera un exemple de ce que nous voulons dire. Il n'y a pas d'église dans l'Ancien Testament. À ce sujet, nous voudrions prémunir le lecteur contre le danger d'être induit en erreur par les titres et les commentaires non inspirés que, dans certaines versions, on trouve à la tête de ces magnifiques chapitres sur l'avenir d'Israël. Le fait est qu'il n'y a pas un seul mot sur l'Église, du commencement à la fin des prophètes. Que nous puissions trouver une très précieuse instruction de l'encouragement et de l'édification dans cette partie du volume inspiré, cela est heureusement vrai. Mais nous ne trouverons cela que dans la mesure où nous pourrons, par l'enseignement de l'Esprit, discerner la véritable portée et le véritable but de ces passages. Le grand sujet de l'Ancien Testament, c'est le gouvernement du monde par Dieu, en rapport immédiat avec Israël. Il est vrai qu'on y trouve partout des choses qui concernent le Seigneur lui-même. Cela est évident d'après Luc 24, verset 27. Mais c'est lui-même, considéré dans son gouvernement de ce monde, et d'Israël en particulier. Il n'est certes pas exagéré d'affirmer qu'il n'y a rien sur l'Église dans tout l'Ancien Testament. Un passage ou deux, de la plume inspirée de Paul, tranche la question sans ambiguïté. En Romains 16, nous lisons « Or, à celui qui est puissant pour vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère, à l'égard duquel le silence a été gardé dès les temps éternels, mais qui a été manifesté maintenant, et qui, par des écrits prophétiques, évidemment du Nouveau Testament, a été donné à connaître à toutes les nations selon le commandement du Dieu éternel pour l'obéissance de la foi. » Versets 25 et 26. De même, dans le chapitre 3 de l'Épître aux Éphésiens, nous lisons « C'est pour cela que moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus pour vous, les nations, si du moins vous avez entendu parler de l'administration de la grâce de Dieu qui m'a été donnée envers vous, comment par révélation le mystère m'a été donné à connaître, lequel en d'autres générations n'a pas été donné à connaître aux fils des hommes, comme il a été maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes par l'Esprit, savoir que les nations seraient co-héritières d'un même corps et co-participantes de sa promesse dans le Christ Jésus par l'Évangile, et de mettre en lumière devant tous quelle est l'administration du mystère caché dès les siècles en Dieu qui a créé toutes choses, afin que la sagesse si diverse de Dieu soit maintenant donnée à connaître aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes par l'Assemblée. » Versets 1 à 10. Le point sur lequel l'apôtre insiste, c'est que le mystère n'a jamais été révélé avant son temps, qu'il n'a pas été donné à connaître aux fils des hommes dans d'autres générations, qu'il était caché en Dieu, non pas caché dans les Écritures, mais dans l'éternelle pensée de Dieu. La bénédiction finale du peuple d'Israël. Le lecteur remarquera que nous touchons ici à la fin d'une section bien distincte de notre livre. Le camp est dûment arrangé. Chaque guerrier occupe sa propre place. Chapitres 1 et 2. Chaque ouvrier est à son propre travail. Chapitres 3 et 4. La congrégation est purifiée de la souillure. Chapitre 5. Il est pourvu au suprême caractère de séparation pour Dieu. Chapitre 6. Cet ordre est d'une beauté remarquable. Nous avons devant nous non seulement un camp purifié et bien ordonné, mais aussi un caractère de consécration à Dieu qu'il est impossible de dépasser, puisqu'il n'a été vu, dans toute sa réalité, que dans la vie du Seigneur Jésus. Ayant donc atteint ce point élevé, il ne nous reste qu'à voir l'Éternel prononçant sa bénédiction sur la congrégation entière. En conséquence, nous trouvons cette bénédiction à la fin du chapitre 6. C'est une bénédiction tout à fait royale. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Parle à Aaron et à ses fils, disant, « Vous bénirez ainsi les fils d'Israël en leur disant, « L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Et ils mettront mon nom sur les fils d'Israël, et moi je les bénirai. » Versets 22 à 27. Cette riche bénédiction se répand par le canal de la sacrificature. Aaron et ses fils sont chargés de la prononcer. L'assemblée de Dieu doit être bénie et gardée par Dieu continuellement. Elle doit toujours se réchauffer au rayon de sa face miséricordieuse. Sa paix doit couler comme un fleuve. Le nom de l'Éternel doit être réclamé sur elle. Il est toujours là pour bénir. Quelle richesse ! Oh, si Israël en avait usé ! S'il en avait réalisé la puissance ! Mais ils se détournèrent bientôt, comme nous le verrons. Ils échangèrent la clarté de la face de Dieu contre les ténèbres. Au lieu d'être satisfaits de ce qui leur était donné par le Dieu de leur père, ils convoitèrent d'autres choses. Voir psaume 105 et 106. Au lieu de l'ordre, de la pureté et de la séparation pour Dieu, tels que nous les trouvons au commencement de notre livre, nous avons le désordre, la souillure et l'idolâtrie. Mais le moment s'approche où la magnifique bénédiction de ce chapitre 6 aura sa pleine application. Quand les 12 tribus d'Israël seront rangées autour de la bannière « Jéhovah Shammah », l'Éternel est là. Ézéchiel 48, verset 35. Quand elles seront purifiées de toutes leurs souillures et consacrées à Dieu dans la puissance du vrai Nazaréat. Ces choses sont clairement présentées dans les prophètes. Tous, sans dissonance, annoncent le glorieux avenir réservé à Israël. Ils montrent les temps où les lourds nuages encore suspendus à l'horizon des nations seront chassés devant les brillants rayons du soleil de justice. Ils annoncent le temps où Israël jouira d'un matin sans nuages de bénédiction et de gloire, sous les vignes et sous les figuiers du pays que Dieu donna en possession éternelle à Abraham, à Isaac et à Jacob. Dans l'Ancien Testament, et dans une grande partie du Nouveau, le Saint-Esprit rend très clairement témoignage à la grâce, au salut et à la bénédiction pour la descendance de Jacob. Nul ne peut vraiment comprendre les prophètes s'il ne voit pas qu'un brillant avenir est réservé au bien-aimé peuple de Dieu, quoiqu'il soit maintenant un peuple rejeté. Dieu s'est engagé à bénir le peuple d'Israël, et personne ne peut détourner le courant de la bénédiction pour le faire couler dans une autre direction. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Voir 2 Corinthiens 1, verset 20. En nous réjouissant des bénédictions particulières qui appartiennent à l'Église, n'oublions pas ce que Dieu a promis à d'autres. Les enfants d'Israël jouiront encore de la plénitude de la bénédiction telle qu'elle est évoquée ici. L'Église a le privilège de savoir que la présence de Dieu est continuellement avec elle et au milieu d'elle, de demeurer dans la clarté de sa face, de boire au fleuve de la paix, d'être béni et gardé de jour en jour par celui qui ne sommeille et ne dort jamais. Mais rappelons-nous que le sentiment pratique et la jouissance expérimentale de ces bénédictions immenses sont en proportion de la mesure dans laquelle l'Église cherche à maintenir l'ordre, la pureté, la séparation nazaréenne. C'est à cela qu'elle est appelée, comme étant la demeure de Dieu, le corps de Christ, l'habitation du Saint-Esprit.